Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, nous allons à la rencontre d'Elisabeth Atangana, une Camerounaise engagée, modeste et élégante qui se voue à la lutte pour l'amélioration de la condition de la femme rurale depuis plus de 35 ans. Pour elle, la femme rurale est une clé indispensable à la lutte contre la pauvreté et pour la sécurité alimentaire en Afrique. Elisabeth Atangana a été sélectionnée par ONU Femmes cette année pour faire part de son expérience en tant que femme rurale à l'ouverture de la 56e session de la Commission de la condition de la femme récemment à New York. L'occasion pour nous de lui tendre notre micro et d'écouter son plaidoyer.
L'agriculture en Afrique occupe la majeure partie de la population, environ 70%. Et dans cette masse de la population active, la femme rurale compte pour à peu près 60% de main-d'œuvre. Elle participe dans la production vivrière, de même que dans la production de rente avec les hommes. Mais elle est plus responsable dans la gestion des ressources qui proviennent de l'agriculture vivrière, d'abord pour assurer la sécurité, la souveraineté alimentaire de la famille et de la population d'une manière générale, également pour avoir des revenus qui lui permettent de contribuer à la scolarité des enfants aux côtés des hommes, de contribuer à la santé familiale, à l'habillement et même au logement. Donc la femme rurale à ce niveau joue un rôle très important. Et dans les organisations paysannes également, les femmes rurales occupent une majeure partie, environ 57% d'organisations de femmes intègrent les organisations paysannes. Maintenant, qu'est-ce que nous appelons organisation paysanne? Nous situons les organisations paysannes à plusieurs niveaux et à divers types. Le premier niveau, c'est au niveau local, au village, où des individus, 2, 3, 4, 5, se mettent ensemble pour mutualiser leurs forces de travail et pour se renforcer mutuellement et créer donc une micro-entreprise de production. Alors, on trouvera dans ce premier niveau-là, généralement, des producteurs à la base. Puis, il y a un second niveau où les gens se mettent ensemble pour la collecte des produits, pour la commercialisation des produits, ou alors la transformation des produits agricoles. Et le troisième niveau, c'est où les gens, les organisations, les réseaux, les coopératives se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts, faire le plaidoyer, négocier ensemble sur leurs préoccupations communes. Alors, tous ces types d'organisations ont pour objectif majeur la recherche des solutions adaptées pour améliorer leurs conditions de vie, rechercher des solutions aux besoins de leurs membres, notamment, et aussi aux besoins de la population.
Alors, comment est-ce que ces organisations paysannes contribuent à l'autonomisation de la femme et à l'amélioration de ses droits?
Les organisations féminines constituent d'abord un cadre de concertation, un cadre de rassemblement où les femmes se réunissent pour discuter ensemble de leurs problèmes, de leurs préoccupations et même de leurs aspirations. Donc c'est d'abord un cadre de dialogue, un cadre de concertation, un cadre de réflexion commune sur les grandes questions qui touchent la femme de manière particulière. Et lorsque ces femmes se mettent ensemble et elles identifient leurs priorités, on va donc trouver des organisations qui œuvrent pour accompagner les femmes à la production, par exemple, l'accès aux intrants agricoles de bonne qualité, à coût réduit, puisque c'est aussi l'objectif de mutualiser les ressources, les petites épargnes. Donc mutualiser ces ressources-là pour accéder à un coût réduit des intrants, limiter les dépenses de transport pour aller en ville, pour aller acheter. Ces organisations aident également à la formation, Elles assurent la formation des femmes. Nous avons par exemple chez nous une organisation qui aide à la formation des femmes rurales. Et nous avons formé déjà 500 jeunes femmes et 5200 femmes en activité depuis la fondation de notre centre pour leur donner les capacités d'abord de maîtriser l'itinéraire technique pour la production, de les aider dans les petites technologies de transformation agricole, de les aider même à planifier leurs activités et même à la gestion simplifiée. Comment elles peuvent gérer leur activité, comment elles peuvent gérer leurs petites épargnes pour qu'il y ait une valeur ajoutée à ce qu'elles sont en train de réaliser.
Alors justement, quels sont les grands problèmes qui minent les femmes rurales?
Je dirais qu'il y a d'abord le niveau politique. Aujourd'hui, il y a encore un fossé qui existe entre nos décideurs et la femme rurale. Et il y a un besoin de prendre en compte la spécificité même de la femme rurale dans les politiques. On peut parler de la femme d'une manière générale. Il y a la femme urbaine qui a un certain nombre de privilèges. Mais la femme rurale a des problèmes qui sont les questions d'enclavement, les questions d'accès aux fonciers ou de sécurisation foncière, l'accès aux ressources adaptées, parce qu'on parle de microfinance. La microfinance, aujourd'hui, elle régule la pauvreté. Elle ne fait plus un pas pour amener la femme à véritablement transformer sa vie. Et c'est ça que nous souhaitons aujourd'hui. Que les fonds qu'on met en direction des femmes permettent d'améliorer les investissements qui amènent la richesse et qui permettent à la femme de relever son niveau. Parce que si on appuie la femme rurale, ça veut dire qu'on appuie toute la famille.
Mais par rapport au microcrédit, vous dites au-delà du microcrédit, il faut des crédits et des investissements à une échelle plus élevée, c'est ça?
Ah oui, notre souhait, notre vision aujourd'hui, c'est qu'il faut des crédits à moyen terme. Le microcrédit, c'est un crédit d'abord à court terme. Ça fait que la femme, elle travaille uniquement pour rembourser de crédit, mais elle n'a pas véritablement le temps pour valoriser les ressources qui ont été mises à sa disposition pour pouvoir créer une surface, un capital qui lui permette de s'autonomiser.
Donc il y a un problème structurel en fait.
Voilà, il faut partir des crédits à très court terme à un crédit à moyen terme qui permette d'accéder aux investissements. Et ça, c'est important. Si on doit développer une filière agricole, les crédits à moyen terme sont indispensables.
Juste pour être concrète, en fait, si on veut développer une filière agricole, il faut quand même laisser le temps aux produits de faire leur cycle complet, de pouvoir les cultiver et leur amener à leur fin. C'est ça que vous voulez dire
pour... Oui, c'est effectivement cela que nous voulons dire. C'est-à-dire qu'il faut un crédit adapté qui permette à la femme de pouvoir produire, de pouvoir récolter normalement, parce que parfois vous récoltez et vous devez vendre même avant d'avoir bien séché. Et ça, ça fait des coûts au niveau du poids pour la personne qui vient acheter. Il vous défalque le niveau d'humidité, etc., etc. Donc, il faut des fonds qui permettent que le produit soit normalement mis à disposition pour qu'il y ait une valeur ajoutée financière. Voilà. Il y a le besoin de stockage, par exemple. Il y a le besoin de conservation. Avec le microcrédit, on ne peut pas construire un magasin de stockage. On ne peut pas acheter, par exemple, un équipement de froid pour conserver sa production de maraîchage, par exemple. On ne peut pas acheter un équipement de transformation et même peut-être un moyen de transport pour l'écoulement des produits. Donc, sur toute la chaîne, il y a un besoin de logistique, un besoin d'équipement et un besoin d'ouvrage même, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie. Chez nous, l'énergie, c'est vraiment de qualité douteuse. Vous mettez aujourd'hui les produits, demain, vous n'êtes pas sûr de la qualité de ces produits parce que l'électricité se coupe tous les jours. Donc, il y a toutes ces questions que les réseaux de femmes doivent chercher à résoudre. Et là, il faut un investissement de la part des pouvoirs publics. Et ça, c'est le niveau politique. Il faut une volonté politique pour accompagner cela.
Aïe,
Maintenant, au niveau social, la femme doit défendre son rôle, sa position, sa reconnaissance comme partenaire. Qu'elle ne soit plus vue comme une bénéficiaire, mais comme une citoyenne qui participe de manière active à la vie de la société. Et là, il y a quelque chose à changer. D'abord, l'image de la femme rurale, l'image qu'on fait de la femme rurale, ça fait qu'elle n'est pas plus de confiance en elle-même. Et nous sommes en train de défendre cela. La femme rurale, ce n'est pas celle qui doit être en haillon, ce n'est pas celle qui doit être à marcher nu-pied. Donc, l'image déjà doit être favorable pour attirer même les autres générations à s'intégrer dans l'activité.
Comment vous faites pour changer cette image?
Le changement de l'image, c'est déjà par l'information, l'éducation, des échanges d'expériences, d'organiser des réunions entre femmes sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles sont, et d'aller voir chez les autres comment elles tiennent leur maison, comment elles se mettent, parce qu'il y a l'être aussi qu'il faut faire changer pour qu'elle soit digne, pour qu'elle se comporte comme une vraie citoyenne et qu'elle n'ait pas de complexe lorsqu'elle va à la rencontre de celle qui va lui rendre service dans un bureau. Donc, c'est cette image que nous voulons changer. Parce que la femme rurale, certes, elle est au champ, elle est en contact avec la terre et tout, mais lorsqu'elle a fini ce travail, elle est citoyenne, elle est partenaire. Et elle doit être reconnue comme telle. Ça, c'est sa place dans la société comme partenaire du développement.
Alors, vous vous trouvez à la commission de la condition de la femme. Quel est votre message principal? Et qu'est-ce que vous espérez pouvoir tirer de ces rencontres?
D'abord, je me réjouis et vraiment, c'est une chance et un honneur pour moi d'avoir été choisie par UN Femmes. Et aussi, une opportunité que la question de la femme rurale soit portée sur la table. Et je regrette d'ailleurs qu'elle vienne 50 ans plus tard, parce que lorsqu'on voit qu'en Afrique, la majeure partie de la population est rurale, et que dans cette majeure partie, les femmes rurales sont les plus nombreuses. Et si nous devons réduire la pauvreté, comme on le dit dans les OMD, je pense qu'il était vraiment prioritaire de choisir de passer par l'éradication de la faim en milieu rural, l'autonomisation des femmes en milieu rural. Et c'est là que je voudrais donner mon message en disant, premièrement, qu'on puisse véritablement prendre en compte le rôle de la femme rurale dans la réduction de la pauvreté, dans la maîtrise de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, et la nutrition qu'il ne faut pas oublier. Il faut prendre le rôle de la femme vraiment comme une clé, comme moteur pour atteindre les objectifs du millénaire. Et la volonté politique, elle est importante. Et il y a un besoin de faire participer la femme rurale dans les espaces de prise de décision, dans l'élaboration, dans la mise en œuvre, dans l'évaluation des politiques, des programmes et projets qui concernent la femme rurale. Et aller véritablement dans des actions concrètes qui peuvent être démultipliées. Il faut qu'on parte des déclarations. Il faut que nous puissions ensemble, les Nations Unies, les gouvernements, les organisations paysannes, les organisations de femmes rurales, que nous puissions ensemble travailler pour créer des initiatives que nous pouvons montrer et qui peuvent être démultipliées et faire tache d'huile et un effet d'entraînement pour réduire la pauvreté.
Et c'est avec ce plaidoyer pour la reconnaissance et l'autonomisation des femmes en milieu rural d'Elisabeth Atangana que nous refermons Escale cette semaine. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. Et rendez-vous à la semaine prochaine.